Ce matin, on va parler d'un passage, je pense, assez méconnu de la parole de Dieu. Et parfois, on fait des découvertes assez incroyables en tombant sur un passage. Ce matin, on va prendre dans nos Bibles Jean 3,16. Vous connaissez ce passage, bien évidemment, par cœur. Mais j'aimerais que ce matin, on puisse s'attarder sur une seule partie, même si on va essayer de tenir compte de l'autre partie. Prenons les premiers mots qui sont dits par le Christ dans ce passage. Car Dieu a tant aimé le monde. Ok, vous connaissez la suite, bien sûr, mais essayons de nous attarder sur ces mots-là. Car Dieu a tant aimé le monde. Alors, vous vous souvenez peut-être que la dernière fois que nous avons pris la parole de Dieu ensemble, nous avons parlé de l'importance pour nous d'être des prêtres au sein de ce monde, d'être l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, non pas une fois que la relation est mise en place, bien sûr, vous savez que seul Jésus-Christ est l'intermédiaire, mais lorsque les hommes ne connaissent pas Dieu, nous sommes les porte-parole de Dieu, nous sommes les prêtres de Dieu qui se tiennent sur la brèche. Et on va essayer d'aller un petit peu plus loin ce matin, avec cette idée-là que nous sommes tous appelés à être prêtres de Dieu pour le monde, pour aimer le monde. Alors, on va se souvenir d'un épisode dans la Bible, Noé, le déluge, ça rappelle bien sûr à tout le monde certaines choses. Et si vous vous souvenez bien de cette histoire, vous vous souvenez que la condition du monde à ce moment-là, au moment où Dieu décide de le détruire par le déluge, était extrêmement terrible. Et Dieu, ne le supportant plus, a décidé de détruire ce monde. La terre entière était dans l'étau de la corruption, de la violence, et chaque pensée des hommes ne visait qu'à la manière de se faire toujours plus de mal les uns aux autres. Et aussi on comprend Dieu, on comprend cette décision d'y mettre fin. Noé était un ami de Dieu. Vous vous souvenez, il s'est battu avec toute sa famille pendant des années dans ce monde, dans cet environnement-là. Et quand Dieu décida de détruire la terre entière, c'est lui qui fut le prêtre et qui se tint entre Dieu et les hommes. Un bon prêtre n'use pas de sa propre influence pour se sauver lui-même. Il cherche le bien des autres. Et voilà pourquoi Noé fut choisi comme prêtre. Alors, nous ne savons pas si Noé a fait tout ce qu'il pouvait, mais au bout de 120 ans de prédication, personne n'avait été convaincu, visiblement. Alors, on peut peut-être se poser la question, et ça nous ramène à nos propres existences, peut-être s'éleva-t-il uniquement contre le péché, oubliant finalement de montrer l'amour de Dieu même pour les pécheurs. Je ne sais pas, la Bible ne nous le dit pas, mais en tout cas, je peux vous dire que dans ma vie, c'est le cas. Après le déluge, quand Dieu avait donné libre cours à sa colère et qu'il commençait à se calmer, il médita sur ce qui s'était passé sur terre. Et il a pu peut-être se dire en lui-même, « Regarde donc ce qu'il a fallu que je fasse. Tous ces êtres tués, la terre entière inondée, mais ils l'ont mérité. J'avais le droit de le faire, parce que c'est moi qui les ai créés et qu'ils ont péché contre moi. » Voilà ce qu'a pu peut-être se dire Dieu. Après que les eaux se furent retirées, Noé sortit très innocemment de l'arche, et vous vous souvenez de ce qu'il a fait ? Au lieu de voir ces choses-là comme quelque chose de choquant, Dieu qui a détruit la terre, non. Qu'est-ce qu'il fait Noé ? Il bâtit un autel. Il prit de chacun des animaux que Dieu avait désignés comme convenables pour le sacrifice, et il les offrit sur l'autel. Or, dans notre petite histoire, si Dieu était en train de se dire au ciel « Est-ce que je n'avais pas raison? Ne m'ont-ils pas obligé à les détruire ?» Peut-être a-t-il senti à ce moment-là le parfum du sacrifice de Noé. Et on pourrait imaginer ce dialogue avec les anges « Mais qu'est-ce que c'est que ce parfum de bonne odeur qui monte à mes narines ?» Et les anges qui pourraient répondre « C'est Noé sur la planète Terre. Tu sais la planète que tu viens d'exterminer ?» Noé ? Pour moi, comme c'est gentil de sa part. comme c'est juste de sa part. Eh bien, jamais plus je ne détruirai la terre comme cela. Je ne la maudirai plus. Jamais plus je ne permettrai qu'il pleuve aussi fort et je placerai un arc dans le ciel pour me rappeler quand il pleut que je dois faire attention. Bien sûr, toutes ces choses-là ne sont pas bibliques, mais ça nous amène à notre propre existence aussi, parce que parfois nous avons ces réflexions. Tout détruire. Voilà aussi le pouvoir du prêtre. Voilà ce que Noé a fait. Le ministère des prêtres vise à changer les attitudes de l'homme envers Dieu, mais aussi l'attitude de Dieu envers l'homme. C'est choquant ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes, si nous sommes prêtres de Dieu, en capacité de changer l'attitude de Dieu. Ce n'est pas une hérésie. Noé vient de le faire. Abraham l'a fait aussi plus tard, et bien d'autres encore. C'est une très grande responsabilité que d'être appelé à exercer cette fonction de prêtre. Et si vous êtes donné à Jésus-Christ, vous l'êtes. En tout cas, vous êtes appelé à l'être. Un grand nombre de vies dépendent de la manière dont vous allez vivre votre vie de prêtre. Si nous oublions ce qu'était être pécheur et que nous commençons à juger les autres et à condamner les gens au lieu de les aimer, nous serons comme Jonas à ses débuts. Il fut lui aussi appelé à être prêtre, à changer les attitudes des hommes, en l'occurrence des Ninivites, envers Dieu. Mais il ne fit pas du très bon travail au début. Vous vous souvenez, je reprends des histoires que tout le monde connaît, n'est-ce pas, hein, Noé, Jonas, mais on les connaît théoriquement. Est-ce qu'on les applique à nos propres vies? C'est une autre question. Je vous invite à le faire. Ninive, vous vous souvenez, c'était une ville dépravée, pour ainsi dire. Et Dieu dit à Jonas, « Va dire aux Ninivites que je vais les détruire. J'en ai assez de leurs péchés, de leurs fautes, de leur dépravation. » Et Jonas ne tenait pas du tout à y aller parce qu'il n'éprouvait pas la moindre sollicitude ni même le moindre amour pour ces gens-là. « Que Dieu les détruise !» Il fallut donc que Dieu le convainque au moyen d'un grand poisson. Nous avons besoin de prêtres qui, quand ils savent qu'une calamité va frapper une ville ou un pays, ou une famille, ou une personne, vont aller devant Dieu et dire « S'il te plaît, non Seigneur, ne les détruis pas, ne la détruis pas. » Mais l'attitude de Jonas au début ressemblait à celle que l'on trouve chez beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Alors, quand est-ce que tu vas les détruire? Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Punis-le bien, celui-là. Tu as dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, à moi je t'ordonne de venger. Punis-le bien. Quand Dieu ne détruisit pas Ninive, Jonas, il a été tout déconfit, il a été boudé. « Seigneur, c'est justement pour cela que je ne voulais pas y aller, hein, » s'exclama-t-il. « Je savais que tu les pardonnerais s'ils se repentaient. » Et ça, c'est pas juste. Au lieu de Jonas comme prêtre, vous souvenez qui a été l'intermédiaire entre Dieu et les hommes? Comble de toute chose, le roi de Ninive. Le roi de la dépravation, c'est lui qui fut l'intercesseur pour sa ville. Il se tint dans la présence de Dieu en faveur du peuple et jeûna. Regardez-moi ça, dit Dieu. Regardez donc ce qu'il a fait. Comment puis-je les détruire maintenant? Et Ninive fut épargnée. Un des plus grands intercesseurs, un des plus grands prêtres que l'Ancien Testament nous ait donné, c'est Moïse. En voilà un qui savait vraiment ce que c'était que d'être prêtre, que d'être intercesseur, que d'aimer le monde. Vous souvenez-vous de la fois où Dieu se mit en colère contre le peuple dans les déserts et dit « J'en peux plus de ces gens-là, je n'en peux plus. Je vais les détruire et je ferai une grande nation de toi, Moïse. » Pas d'Israël, de toi, Moïse. à leur place. Et Moïse n'avait pas d'intérêt personnel parce qu'il avait en lui l'amour de Dieu pour son peuple. Son unique préoccupation n'était pas sa propre gloire, c'était l'amour pour le peuple de Dieu. Il était prêt à risquer sa propre vie pour eux. Il comprenait ce principe affirmé plus tard par Jésus. Si vraiment nous voulons le suivre et être ses disciples, comme lui, il est notre souverain prêtre, alors nous serons prêts à prendre une croix comme lui le fit et à donner notre vie pour d'autres afin de leur témoigner de l'amour de Dieu. Ainsi, quand Dieu dit ça à Moïse, « Je vais tous les détruire et je vais te choisir, toi, pour être une grande nation. » Moïse répondit à Dieu, « Je ne vais pas sortir du chemin. Si tu les détruis, il faudra que tu me détruises aussi. » Mais enfin, Moïse, qu'est-ce que tu dis ? Je viens de te dire que je vais te faire de toi une grande nation. Exactement ce que je viens de dire. Ôte-moi de ton livre. Le monde entier va dire, regarde leur Dieu, il les a sortis d'Égypte pour les écraser dans le désert. Eh bien non, Seigneur, je ne vais pas me tenir comme ça et te laisser détruire le peuple. Mais enfin, répond Dieu, tout ira bien pour toi. Laisse-moi simplement détruire ces gens méchants et je vais recommencer à zéro en faisant de toi une nation. Et Moïse aurait pu répondre, une minute, calme-toi, ce n'est pas ainsi, en les tuant tous, qu'il faut procéder. Et vous vous souvenez que Dieu change d'attitude, il ne détruit pas son peuple, grâce à Moïse, qui fut le prêtre pour sa nation. Moïse a touché le cœur de Dieu, parce que Dieu n'est pas un ensemble de règles, Dieu n'est pas une conception, il n'est pas une liste de choses qu'on fait et des choses qu'on ne fait pas. Il n'est pas quelqu'un qui condamne et avec lequel il est impossible de discuter. Il est une personne, on peut lui parler. Jésus vint dans un corps comme le nôtre pour être le plus grand prêtre qui ait jamais vécu. Il vécut sur cette terre et il sait donc pleinement ce qu'on ressent, pleinement ce que nous avons vécu, ce que nous vivons et ce que nous vivrons. Nous n'avons pas un souverain prêtre qui ne peut pas compatir. Il a connu lui-même toutes les expériences que nous traversons. Il a aussi connu la puissance de la tentation. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas cédé qu'il ne les a pas connues, ces tentations. Et parce qu'il comprend, nous pouvons lui parler. Nous pouvons changer l'attitude de Dieu dans une situation donnée. Dieu se laisse toucher. Alors, peut-être que la raison pour laquelle nous ne sommes pas de bons prêtres dans nos vies vient du fait que nous ne connaissons pas grand-chose à l'amitié et à l'amour. Nous avons, et on le dit souvent, mais c'est tellement vrai, une religion à la place d'une relation, que ce soit avec Dieu, entre nous, ou avec ceux qui nous entourent dans le monde. Si nous avions une relation au lieu de tout notre protocole, nous comprendrions le cœur de Dieu et nous saurions comment le toucher et changer ses dispositions envers les gens. Ces gens qui sont appelés à être sauvés. Alors, imaginez un peu un jour, ou même tous les jours, que se passerait-il si vous, mari, ou vous, femme, le matin, au réveil, vous disiez à votre époux ou à votre femme, « Madame Guillot, je viens en votre présence aujourd'hui. » C'est pas comme ça qu'on fait avec les gens qu'on aime. Hein. On ne s'embarrasse pas de tout un protocole. On vient librement. De la même manière, Dieu désire profiter de l'amitié qui existe dans une famille, dans un couple, dans une église. Il est notre Père et pas un ensemble de règles. Il est une personne. Ce n'est pas un concept que je vous donne là, mais c'est une réalité à vivre. Certaines personnes, et parfois j'en fais partie, on peut se dire, mais moi j'aime bien le protocole. C'est confortable. J'aime les belles formes quand je m'adresse à Dieu. Peut-être parce que nous n'avons eu l'habitude que de ça. Hein. Mais qu'en pense Dieu dans tout ça? Qu'en pense Dieu? Moi, je sais que si ma femme me disait le matin « Oh, monsieur Guillot, je viens en votre présence », j'aimerais pas beaucoup. Gardez votre protocole pour le président de la République, si vous y tenez, mais ne le donnez pas à Dieu. Nous sommes ici pour le servir, non pour nous sentir bien en étant dans notre train-train religieux et protocolaire. Alors, autre chose maintenant, vous savez que depuis un an et demi, je suis l'heureux papa de Yona, et tout le monde a pu le pratiquer un petit peu, il a beaucoup d'énergie. Et souvent, avec Amy, il nous arrive de nous énerver contre lui. Et lorsqu'il pleure alors que ça fait 10 minutes qu'il fait sa sieste et qu'il n'a pas dormi du tout de la journée, eh bien je vais le voir pour le gronder. C'est mon intention. J'ouvre sa chambre, il se lève debout sur son lit, tenant les barreaux, et là il me fait un merveilleux sourire. Mais comment voulez-vous que je gronde cet enfant? Alors, si moi, j'avais dans cette intention de gronder mon fils, moi qui suis imparfait, mon fils qui suis imparfait aussi, comment Dieu ne peut-il pas être touché de la même manière avec nous? Dieu est une personne avec des sentiments. Nous avons été créés à son image. Et nous partageons donc quelque part, sa nature. Il est une personne avec des sentiments. Et Noé, Abraham, Moïse, bien d'autres ont changé l'attitude de Dieu, tout en gardant sa souveraineté, bien entendu. Mais ces hommes-là ont été capables, de par leur amour pour le monde et pour Dieu, de par cette proximité-là, à changer les intentions de Dieu. Un prêtre est quelqu'un qui réconcilie deux parties. Nous avons tous reçu ce ministère-là, ce ministère de la réconciliation et la joie de voir deux parties réconciliées, comme nous l'avons été aussi avec Dieu. Il n'y a rien de plus important dans nos vies. Si vous ne savez pas chanter, ce n'est pas grave. Si vous ne savez pas danser pour Dieu, ce n'est pas grave. Si vous n'avez pas de compétences particulières pour l'enseignement, ce n'est pas grave. Mais si vous refusez le rôle de prêtre, au sens d'intercesseur, de témoin auprès de Dieu, là c'est grave. Puisque Dieu nous a demandé de faire ça. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il n'y a rien pour lui de plus important que de voir ses propres enfants aimer ceux qu'il aspire à aimer en retour. Le prêtre est prêt à donner sa vie, et je suis bien mal à l'aise de vous le dire parce que j'en suis pas du tout à ce point-là, mais Dieu nous appelle à ça. Un prêtre doit être l'ami des deux parties, et c'est parfois difficile de dire d'être l'ami du monde. Quand nous voulons amener la réconciliation entre un homme et Dieu, nous parlons d'abord avec une des parties en cause. Et imaginons que nous parlons avec Dieu, et nous venons avec notre ami, qui doit être moche aux yeux de Dieu, comme nous l'étions aussi, avec toutes ses tâches, tous ses défauts, comme nous l'étions aussi et comme nous le sommes encore parfois. Dieu, regarde mon ami. Moi, je le comprends, tu sais, j'étais comme lui avant. Hein. Je suis exactement comme lui, mais parce que tu nous as créés, tu as le droit d'agir comme tu veux. Pense-y quand même, Seigneur, mais pense à mon ami. Peut-être qu'un jour, il t'acceptera. Tu sais, Seigneur, à quel point j'ai été mauvais, comme lui l'est en ce moment. Mais tu as versé ton sang, pour lui aussi. Alors on pourra dire à notre ami, viens, je suis sûr que Dieu va t'accueillir. Hein, Seigneur, tu vas l'accueillir. Voilà dans quel état d'esprit on doit être. Nous sommes au milieu, nous sommes sur la brèche, essayant de faire la paix. Alors, il nous faut dire du bien des hommes à Dieu, et ça, c'est pas facile, même dans notre propre famille spirituelle, à combien plus forte raison dans nos familles qui ne sont pas chrétiennes, dans nos amis qui ne sont pas chrétiens, dans les gens qu'on croise dans la rue ou dans le métro. Dire du bien des hommes à Dieu, mais aussi du bien de Dieu aux hommes. Mais si on se comporte comme des rapporteurs, regarde ce qu'ils font, même dans l'église, hein, des fois on le fait. Regarde, lui, il ne fait pas grand-chose. Hein. Pas terrible, lui. Hein. Je ne sais pas s'il ira au paradis. Alors dans nos familles, dans nos études, dans nos travails, regarde, lui, je ne suis pas bien beau. Hein. Moi, je vais être sauvé, mais alors lui, c'est vraiment mal barré. Regarde ce qu'il fait, c'est terrible. Et nous condamnons les gens à la place de Dieu. Nous ne sommes pas à la hauteur de ce rôle de prêtre. Ayons finalement un regard qui est celui de Dieu pour ces personnes-là. Car Dieu a tant aimé le monde. Alors je suis d'accord, il ne faut pas en partager les principes, n'est-ce pas ? C'est parfois difficile aussi de se tenir en présence de ces gens-là, d'être leurs amis, mais de ne pas partager ce qu'ils font. Il faut aller plus loin que ça, plus loin que leurs attitudes. Il faut aimer leur cœur et il faut aimer ce désir qu'ils auront peut-être pour Dieu. Dieu aime le monde. Je crois que tout acte que Dieu ait jamais fait a été motivé par l'amour, même la création. Il appela Noé, Abraham, Moïse et encore d'autres personnes pour qu'ils se tiennent sur la brèche entre lui et les gens du monde. Bien sûr, il envoyait Jésus-Christ pour qu'il soit souverain prêtre, notre modèle, lui qui est mort pour nous et qui étions pécheurs à l'époque, et nous le sommes encore, il nous sauve encore aujourd'hui. Et il vous a placé, vous aussi, là où vous êtes. Je pensais à Marc en écrivant ce passage, quand tu nous as demandé de prier il y a 2 semaines, je crois, pour une personne que tu avais croisée dans le métro. C'est ça. C'est aimer les personnes qui vous ont bousculé dans le métro. C'est aimer même les gens qui vous ignorent, qui ignorent votre sourire dans le métro, ou dans votre travail, ou quand vous les croisez dans la rue. Il faut les aimer, ces gens-là, c'est pas facile. Mais c'est notre rôle. Et Dieu nous appelle à ça parce que Dieu l'a fait pour nous. Il vous a placé, vous, là où vous êtes, pour être un prêtre et pour faire connaître l'amour de Dieu à ceux qui vous entourent. Chaque croyant est un prêtre. Dieu a dit, cela n'a pas marché avec Israël, hein, avec tout ce protocole, n'est-ce pas, qu'il a voulu dans un premier temps, avec ses prêtres, ses habits, ses rites, ses fêtes. Ça n'a pas marché, mais ça marchera avec l'Église, grâce à l'amour. Je vais en faire un royaume de prêtres qui aiment. C'est la parole qui nous dit ça. Nous sommes ici pour nous tenir entre le monde et Dieu. Beaucoup de chrétiens, dont je fais partie, malheureusement encore, on n'arrête pas de réagir avec horreur avec ce qu'on voit dans la rue ou dans nos vies. Regardez donc ce que cette personne a fait. Regardez combien cette ville est dépravée. Regardez mon voisin. Seigneur, comment peux-tu les épargner ? Et là, c'est grave ce qu'on fait. On met en doute l'amour de Dieu et sa capacité qu'il a de sauver tous les hommes. Et bien plus, on réfrène complètement notre rôle de prêtre, en n'essayant même pas de parler à ces gens-là de Dieu. Nous avons tellement peur d'être contaminés par le monde, et je crois que cette peur-là, il faut qu'elle existe. En tout cas, être vigilant par rapport à ça. Mais on est tellement dans la réaction inverse qu'on ne veut plus se mêler avec ces gens-là. Nous avons tellement peur d'être contaminés par le monde que nous oublions que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons besoin d'aimer les gens et de nous mêler à eux sans en partager le péché. Là est le défi aussi, comme Jésus le faisait. Il y a plein d'épisodes dans les évangiles où Dieu se mêle à des pécheurs et on lui reproche. Jésus est devenu notre proche parent, notre modèle. Il s'est incarné et il demeure en nous. Il ne s'est pas coupé du monde en mettant un panneau à la porte de sa maison proclamant « Ici seulement sont acceptés les chrétiens de l'Église du Christ ». S'il avait fait ça, personne d'entre nous serait ici. Personne, même ceux qui sont nés dans l'Église. Alors une fois, Jésus vint chez Matthieu. La maison était pleine de publicains et de pécheurs. On pourrait dire, à notre époque, peut-être de mafieux, de trafiquants, de ces gens qui sont dehors. Elle était pleine de toutes ces personnes-là. « Regardez ça !» s'indignèrent les religieux. « Il ne peut pas être un prophète. Il est dans la maison de Matthieu et elle est pleine de pécheurs. Drogue, mafia, prostitution. Ne sait-il pas quel genre de gens il fréquente ?» S'il était vraiment prophète, il saurait à qui il a affaire et il les éviterait. Elle est là parfois notre réflexion aussi à nous. Mais pas celle, c'est pas celle de Jésus, c'est pas sa réflexion. Il y alla et raconta des histoires qui parlaient du royaume de Dieu. Parce qu'il n'était pas venu pour condamner, mais pour sauver. Alors parfois nous sommes trop saints. Je lui provoque exprès. On est trop saints. Nous oublions vite ce que c'était que d'être pécheurs. Et nous faisons comme si nous avions toujours été sauvés. Alors nous allons du côté non-fumeur, non-pécheur. Et ceux qui sont du côté fumeur et pécheur, nous les laissons mourir. Pour être des prêtres, il nous faut être les amis des deux côtés, sans concession, afin de les réconcilier. Il nous faut nous impliquer dans la vie des gens pour pouvoir les amener à Dieu. C'est cela être un prêtre, c'est cela être un intercesseur, c'est cela être un enfant de Dieu, celui qui se tient entre les deux parties. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. Donc c'est Paul qui écrit à Timothée. « J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, des intercessions, actions de grâce pour tous les hommes. » C'est marrant ce passage-là, je ne l'ai jamais lu comme ça, moi. Pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà ce qui plaît à Dieu. Un amour pour tous les hommes et non pas « Oh Dieu, juge ces terribles pécheurs ». Dieu n'aime pas ce genre de prière-là. Il veut que tous les hommes soient sauvés et il doit vraiment s'attrister de voir parfois notre comportement si égoïste, si préoccupé de nos propres intérêts. Alléluia, nous allons au ciel, mais pour eux, c'est tant pis. Cela déplaît à notre Sauveur quand nous entretenons une telle attitude parce que son désir à lui est que tous puissent aller au ciel par le moyen de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde, dit la Bible. On pourrait se l'approprier en disant « Car nous aimons tant le monde que nous ferions tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il soit sauvé. » Amen.